Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 21 avril 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Nanit Talani.
Pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, nomination d'un nouveau gouvernement resserré et prestation de serment hier d'un nouveau vice-président.
Un Russe en opération avec des soldats maliens tués par une explosion dans le centre du Mali.
400 membres civils et militaires de la MONUSCO ont été tués dans l'exercice de leur mandat de maintien de la paix depuis 1999 en République démocratique du Congo.
Au Rwanda, le gérant chinois d'une mine condamné à 20 ans de prison pour avoir fouetté des employés.
L'Italie mise sur le gaz africain pour ne plus dépendre de la Russie.
L'Ukraine appelle à la tenue de négociations avec la Russie sur le sort de la ville assiégée de Mariupol.
En France, le président Emmanuel Macron et Marine Le Pen font feu de tout bois dans leur débat télévisé avant le second tour de dimanche.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, la nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Patrick Achi a été dévoilée hier. C'est à peine 24 heures après sa reconduction par le président Alassane Ouattara dans ses fonctions. Notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra, fait le point.
Cette nouvelle équipe est composée de 32 membres au lieu de 41 comme dans le précédent gouvernement. Les affaires étrangères sont restées à Kandia Camara, une fidèle parmi les fidèles du président. Tene Birahima Ouattara, le frère influent, garde le portefeuille de la défense. Adjumani Kouassi à l'agriculture. Tous sont ministres d'État. Amadou Koné est resté au transport. Après la suppression du ministère de l'hydraulique, Laurent Tchagba est désormais affecté aux eaux et forêts pour remplacer Alain Richard Donvahi, qui a passé 5 ans à la tête de ce ministère. Deux nouveaux ministres font leur entrée. Mamadou Sangafoua Koulibaly, anciennement ministre de l'Agriculture dans un précédent gouvernement, remplace Thomas Camara à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le deuxième entrant est l'ancienne patronne de Canal Plus Côte d'Ivoire, Françoise Rumac, à la tête de la culture ivoirienne. Les 4 secrétariats d'État du gouvernement précédent sont supprimés. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Au Mali, un ressortissant russe en opération avec des soldats maliens a été tué dans une attaque à l'engin explosif artisanal près de la ville de Hombori, dans le centre du pays, une région en proie à l'activité de groupes djihadistes. Les FAMA, forces armées maliennes, n'ont pas communiqué officiellement sur ces événements.
Selon l'AFP, il s'agit du premier décès confirmé d'un Russe dans le cadre d'opérations militaires au Mali depuis que la junte au pouvoir a fait appel massivement, pour citer l'agence, à ce que Bamako présente comme des instructeurs venus de Russie et les Occidentaux comme des mercenaires de la milice privée russe Wagner, ce que démentent fermement les leaders militaires maliens.
Dans un message sur Twitter, la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, a dit être préoccupée par des informations dont elle n'a pas précisé l'origine sur, je cite, « des allégations de violation des droits de l'homme commises mardi pendant le marché hebdomadaire à Hombori lors d'une opération menée par les forces armées maliennes qui aurait été accompagnée d'un groupe de militaires étrangers ». Fin de citation.
Un porte-parole de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a indiqué hier que 400 membres civils et militaires de la MONUSCO ont été tués dans l'exercice de leur mandat de maintien de la paix depuis 1999. La MONUSCO est l'une des missions où le sang des casques bleus a le plus coulé. On est dans un environnement dangereux, a souligné le porte-parole Mathias Gilman.
Ce bilan, a-t-il dit, comprend à la fois les militaires, les policiers, les civils ainsi que les experts internationaux, notamment ceux qui ont été assassinés au Kasaï en 2017. La MONUSCO est considérée comme l'une des plus importantes et des plus coûteuses missions de l'ONU dans le monde, avec un budget annuel d'$1 milliard.
Au Rwanda, le gérant chinois d'une mine a été condamné mardi à 20 ans de prison pour avoir frappé des employés locaux. C'est après qu'une vidéo le montrant en train de fouetter un homme attaché à un poteau est devenue virale. Le point avec Rosine Munezero.
Shin Soon, qui travaillait dans une mine de cassitérite, principal minerai de l'étain, a été arrêté en septembre lorsqu'une vidéo devenue virale le montre fouettant avec une corde un autre homme recroquevillé au sol et attaché à un poteau. Il s'agit d'un crime grave, a déclaré le juge Jacques Kanyarukiga, le condamnant à 20 ans de prison. Monsieur Shun, présent au tribunal lors du verdict, au district de Rutsiro, dans l'ouest du Rwanda, a accepté avoir agressé deux employés, affirmant les avoir battus parce qu'il était frustré et fatigué qu'ils volent sans cesse des minerais. Le gérant, âgé de 43 ans, s'est défendu, affirmant avoir indemnisé les deux victimes. Un autre gérant de l'entreprise, Ali Group Holding, a été jugé complice et condamné à 12 ans de prison. Un troisième accusé a été jugé non coupable. Après le verdict, M. Shun, qui a été libéré sous caution, a été emmené menotté. Il a 30 jours pour faire appel. L'ambassade de Chine à Kigali dit dans un communiqué avoir pris note du jugement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Italie s'est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. Le Premier ministre Mario Draghi a ainsi entamé des visites dans plusieurs pays du continent. L'Algérie et l'Égypte avant Pâques, le Congo et l'Angola cette semaine, le Mozambique en mai. Des détails avec John Linden.
La Russie fournit à l'Italie 45% de son gaz. Le Premier ministre Mario Draghi souhaite changer cette situation en diversifiant au plus vite son portefeuille de fournisseurs. Il avait prévu de se rendre à Luanda mercredi et jeudi à Brazzaville pour conclure de nouveaux contrats. Mais, positif au Covid, il a été remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. Draghi s'est néanmoins entretenu mercredi par téléphone avec le président angolais, João Lourenço. Ils ont tous deux convenu, selon Rome, de renforcer le partenariat bilatéral dans le secteur énergétique. Ces dernières semaines, l'Italie a conclu des accords avec l'Algérie et l'Égypte. Alger, actuellement son deuxième fournisseur, contribue déjà pour environ 30% de sa consommation. L'Italie est l'un des plus gros consommateurs européens de gaz et elle importe 95% de son gaz.
Dans le nord du Burundi, une centaine de personnes ont été testées positives. On parlait plutôt de l'Ukraine qui a appelé hier à la tenue de négociations avec la Russie sur le sort de la ville assiégée de Mariupol au moment où Moscou faisait une démonstration de force en testant un nouveau missile intercontinental pouvant emporter des charges nucléaires.
Les derniers combattants ukrainiens de Mariupol refusent de se rendre, mais réclament ce jeudi à la communauté internationale des garanties de sécurité au moment où les forces russes comptent s'emparer de la totalité de cette ville stratégique du sud-est de l'Ukraine.
Plusieurs centaines de civils manquant de vivres et d'eau sont retranchés dans l'usine sidérurgique et métallurgique d'Azovstal avec le 36e bataillon de l'armée ukrainienne et le bataillon Azov, les deux dernières unités combattantes à Mariupol, selon les autorités ukrainiennes.
Et à New York, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a annoncé mercredi qu'Antonio Guterres a envoyé mardi des lettres aux dirigeants russes et ukrainiens Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, leur demandant d'être reçus à Moscou et Kiev. Et puis, le Parlement finlandais a commencé hier à débattre d'une adhésion à l'OTAN, désormais très probable après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
À 4 jours du second tour de la présidentielle française, les deux finalistes Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés hier lors d'un débat télévisé électrique. Ils ont affiché leur désaccord et s'accrochant avec virulence sur la Russie, l'Union européenne ou encore le voile islamique. Le point avec Michel Joseph.
Dans la dernière ligne droite de la campagne, le président sortant et la candidate d'extrême droite ont pendant plus de 2h45 joué leur va-tout pour tenter de convaincre les indécis et les abstentionnistes du premier tour, notamment de gauche, dont le choix devrait être déterminant dans les bureaux de vote dimanche. Tout en assumant son bilan, Emmanuel Macron a opposé à Marine Le Pen de nombreux chiffres, l'accusant d'avoir un programme n'ayant ni queue ni tête. Lui reprochant de ne vivre que de la peur et du ressentiment, le président sortant a également accusé Madame Le Pen de vouloir pousser à la guerre civile avec son projet d'interdiction du voile islamique dans l'espace public. Madame Le Pen a accusé le quinquennat de Macron de s'être conclu sur la division et le mépris du peuple français. Accusé par Macron de dépendre du pouvoir russe dans une allusion à un prêt de 9 millions d'euros, contracté en 2017 par le parti d'extrême droite auprès d'une banque russe, Madame Le Pen a affirmé soutenir une Ukraine libre, indépendante, qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, le FMI a relevé ses prévisions de croissance 2022 pour l'Afrique subsaharienne à 3,8%. Sept pays africains devraient enregistrer une croissance supérieure à 6%. Le Niger, le Soudan du Sud, le Rwanda, la RDC, l'île Maurice, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Le Niger enregistrera la plus forte croissance du continent avec une prévision de 6,9% selon le FMI. Les bons du trésor assimilables émis par les pays de la CEMAC sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale ont atteint en mars leur niveau le plus élevé sur 9 mois. Le Cameroun a pratiqué des taux d'intérêt 2 fois moins chers que les autres pays de la CEMAC, culminant à 2,53%, tandis que le Tchad a affiché un taux de 6,78%, la République du Congo 6,44%, le Gabon 5,97%. La Centrafrique et la Guinée équatoriale étaient absentes du marché sur cette période. Dans ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022, la banque tunisienne UIB a enregistré un PNB en hausse de 8,8%, soit 38 millions de dollars contre 35 pour la même période en 2021. Les produits d'exploitation bancaire ont connu une hausse de 7% et la marge d'intérêt a augmenté de 6%.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. On connaît les oppositions du premier tour des play-offs de la Basketball Africa League. À l'issue des matchs de la conférence Nil, en quart de finale, le Zamalek fera face à Slack de la Guinée. Rwanda Energy Group affrontera Force Armée et Police du Cameroun. À ne pas manquer le choc entre l'AS Salé du Maroc et Petro de Luanda. Mission compliquée d'office pour les novices sud-africains de Cape Town Tigers devant les Tunisiens de l'US Monastir. Les play-offs auront lieu à Kigali au Rwanda du 21 au 28 mai prochain. En Angleterre, humilié à Liverpool 4-0 mardi, un match en retard de la 30e journée de la Premier League, Manchester United a annoncé le départ prochain de son responsable de la détection, Jim Lawlor. Avant un mercato d'été qui s'annonce très agité, Jim a décidé de quitter son poste de responsable de la détection cet été après 16 ans au sein du club, a indiqué un porte-parole des Red Devils, Marcel Labout, qui dirigeait le réseau de détection au niveau mondial, a quitté le club avec effet immédiat après 8 ans de collaboration, a-t-il ajouté. L'entraîneur intérimaire Ralph Rangnick gère les affaires courantes jusqu'à la fin de la saison dans l'attente de la nomination d'un coach permanent. Ce dernier pourrait être Erik ten Hag, actuellement sur le banc de l'Ajax Amsterdam. Tennis, Wimbledon a exclu les joueurs russes et bélarusses de l'édition 2022 du majeur sur gazon en raison de la guerre en Ukraine. Wimbledon devient ainsi le premier tournoi de tennis à écarter individuellement ses joueurs. Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, Andrei Rublev, Arina Sabalenka, Anastasia Pavlyuchenkova et Victoria Azarenka ne pourront donc pas défendre leur chance à Londres. L'ATP, l'Association des professionnels du tennis, a apporté son soutien aux joueurs russes et bélarusses qui pourront continuer de participer au tournoi de l'ATP sous drapeau neutre, une position partagée jusque-là par l'ensemble du tennis professionnel. Boxe, le champion du monde WBC des poids lourds, Tyson Fury, a promis que son adversaire Dillian White
va affronter la meilleure version de lui-même ce samedi. Il sera à Wembley lors du championnat du monde 100% britannique avec 31 victoires dont 22 avant la limite et un nul à 33 ans. Fury est invaincu. Il est donné favori par les bookmakers face à son compatriote de 34 ans qui n'a que deux défaites en 30 combats.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga sera aujourd'hui devant les membres du Conseil national de transition pour faire le point sur l'état de mise en œuvre de son plan d'action gouvernemental. Quelles sont les attentes des politiques et analystes au terme de cet échange entre l'exécutif et le législatif? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko.
Vendredi 30 juillet 2021, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga était devant les membres du Conseil national de transition pour présenter le plan d'action de son gouvernement. Ce plan, largement adopté 72 heures plus tard, devait, selon le Premier ministre, être la thérapie du grand corps malade qu'est le Mali. Huit mois plus tard, il s'agit de savoir, selon Souleymane Dé, président de la commission loi du CNT, si le Mali se porte mieux.
Il sera d'une question d'actualité qui vise essentiellement à introduire le débat entre le Premier ministre et son gouvernement avec les membres du Conseil national de transition en vue de porter des réponses aux questions que les uns et les autres se posent sur la poursuite normale de la transition.
Au cours des débats qui vont inlassablement tourner autour de la mise en œuvre du plan, de l'état des réformes institutionnelles et des questions sécuritaires, il est selon Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, nécessaire que les Maliens qui aspirent à un renouveau politique soient édifiés.
Tous les sujets doivent être évoqués, tous ceux qui sont dans le plan d'action du gouvernement, des questions relatives aux réformes politiques et institutionnelles. Les Maliens veulent savoir où est-ce que nous en sommes, parce que quand même c'est important. Nos compatriotes veulent une refondation de notre démocratie, une refondation du pays. Il y avait eu des promesses. Où est-ce que nous en sommes? Les gens veulent le savoir. Par rapport à la sécurisation du pays, les gens veulent savoir davantage qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et par rapport au retour de l'administration dans les zones occupées, les Maliens veulent savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se faire, qu'est-ce qui n'a pas pu se faire. Par rapport aussi au chronogramme, aux élections et tout ce qui va comme réforme allant dans le sens des élections, les Maliens veulent savoir.
Hamidou Togo, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Hogon, estime que les questions autour de la cohésion nationale et de la diplomatie doivent être abordées.
Il y a une France importante de la population qui se sent exclue. Donc, si on veut aller loin, on veut faire mieux pour le pays, il faut qu'il y ait une entente nationale. L'autre aspect aussi important, c'est la sûreté de la vie. C'est vrai, le contexte international n'est pas facile, mais au Mali particulièrement, compte tenu des sanctions de la CEDEAO et de l'IOMOA, le contexte est très difficile. Le contexte national est très, très, très difficile.
Notez que ce plan d'action gouvernemental, qui avait été budgétisé à plus de 2 000 milliards de francs CFA, devait voir son contenu entièrement réalisé au mois de février 2022. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Niger, au lendemain de l'incarcération mardi du ministre de la Communication Mahamadou Zada, impliqué dans une affaire de mauvaise gestion d'un montant de 3 milliards de francs CFA, notre correspondant Abdulrazak Idrissa a recueilli ses réactions à Niamey.
De mon point de vue, ils ont même traîné pour le poursuivre. Ils ont traîné. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Si les faits sont avérés. Mais il doit être puni, il n'y a rien à faire. C'est obligatoire qu'il soit puni si les faits sont avérés. Mais seul, Pourquoi seul? Pourquoi seul? Les autres là, c'est fini, donc on s'associe, on vole l'État. Et puis bon, moi je suis la bonne personne pour aller en prison et puis vous vous jugez tranquillement.
Je pense qu'une preuve a été donnée et que les uns et les autres en tout cas se sont calmés et vu les réactions des uns et des autres sur les réseaux sociaux, cela démontre en tout cas que les Nigériens sont à partir d'hier rassurés. La lutte contre la corruption, effectivement, il faut le faire avec, avec motivation et avec détermination. Comme l'a dit le président de la République dans ses nombreuses interventions, que les gens vont continuer à détourner, les gens vont continuer à voler, et nous aussi, nous allons continuer à les faire inquiéter. Donc nous pensons qu'à partir d'hier, les uns et les autres, et les Nigériens en général, en tout cas, ont compris, même ceux qui sont de mauvaise foi, ont compris que le président a la volonté.
C'est une première quand même, c'était pas possible au temps de Youssou, sinon c'est au temps de Youssou on devrait l'aimer. Donc c'est une première et il faut encourager la justice surtout et vraiment créer les conditions pour qu'elle puisse agir afin de protéger l'intérêt général, afin de protéger les deniers publics. Mais pour moi, c'est la boîte de Pandore est ouverte. À partir de la mise sous mandat de dépôt de M. Zada, c'est qu'il n'y a plus de raison de protéger ceux qui sont impliqués dans l'affaire du ministère de la Défense. D'abord, il y a plus de sous. Deuxièmement, la sensibilité. Et troisièmement, les conséquences au ministère de la Défense.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, l'armée a déployé des centaines de soldats à la frontière orientale avec la République centrafricaine après que des rebelles centrafricains ont enlevé au moins 35 personnes ce mois-ci. Selon elle, les rebelles ciblent les marchands, les agriculteurs et les éleveurs et volent de l'argent et du bétail. D'autres détails dans ce reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé. Le récit est de Rosine Mounezero.
Selon l'armée camerounaise, des dizaines de soldats ont lancé lundi des raids dans des villages et des forêts à la frontière avec la République centrafricaine pour libérer des civils retenus en otage par les rebelles centrafricains. S'exprimant par le biais d'une application de messagerie, le colonel Dominique Njoka a déclaré avoir dirigé les troupes lors de la mission de sauvetage à Mbéré, une unité administrative frontalière.
Quand nous sommes arrivés, malheureusement, les rebelles présumés nous ont vus. Alors, ils ont ouvert le feu. Mais nous avons réagi immédiatement. Et dans la confrontation, ils se sont enfuis. Avant de s'enfuir, ils ont tué un otage. Et un autre a été grièvement blessé. Donc, il est mort. Cependant, sur les 7 personnes que nous avons libérées, 5 sont arrivées chez elles, saines et sauves. Nous continuons à demander à la population de coopérer, de nous donner des informations au moment opportun pour que nous puissions réagir.
Il affirme que l'armée a déployé des centaines de soldats dans la région pour traquer les rebelles qui ont enlevé au moins 35 civils au cours des 3 dernières semaines. Les autorités centrafricaines affirment que les combats avec les rebelles se sont intensifiés depuis mars. La mission de maintien de la paix de l'ONU en RCA, la MINUSCA, a déclaré la semaine dernière que les rebelles chassés de plusieurs villes se cachaient à la frontière avec le Cameroun. La MINUSCA a déclaré que les rebelles centrafricains se battaient pour contrôler les villes frontalières comme Bambari et Alindao. Les autorités affirment que les rebelles traversent la frontière pour commettre des vols et des enlèvements contre rançon. Bouba Alami, un éleveur camerounais de 50 ans, affirme que son fils fait partie des otages libérés. Il s'est exprimé sur les médias camerounais Canal 2 TV et Equinox Radio.
Un étrange visiteur m'a informé que mon fils de 20 ans était en captivité dans la forêt à la frontière avec la République centrafricaine. Il m'a dit que les ravisseurs voulaient une rançon d'au moins 5 000 $ pour sa libération, mais ne m'a pas dit où et comment la rançon devait être payée. J'ai passé 2 nuits blanches sans savoir comment entrer en contact avec les ravisseurs ou mon fils.
L'armée camerounaise affirme avoir pu libérer les 5 otages après que des villageois leur ont indiqué où les rebelles se cachaient dans la forêt. Le Cameroun partage une frontière de plus de 900 km avec la République centrafricaine.
Les agriculteurs américains et ceux du monde entier pourraient un jour quitter le volant de leurs tracteurs et piloter des tracteurs autonomes à distance via une application. Mais reste à savoir si les agriculteurs, petits et grands, seront prêts à faire confiance à cette technologie. Julie Tabo de VOA nous en dit plus dans ce reportage repris ici par Eric Manirakiza.
La technologie dans l'industrie agricole évolue rapidement. Bientôt, les agriculteurs pourront être à mesure de lancer un tracteur sans conducteur dans leur champ pour travailler 24 heures sur 24 tout en le contrôlant à distance via une application. Higino Cafiero est le PDG et fondateur de Beer Flag Robotics, une filiale de John Deere, entreprise américaine qui fabrique des équipements agricoles. Il s'est entretenu avec VOA via Skype.
Lorsque ce pays a été fondé, environ 50% des Américains étaient des agriculteurs et aujourd'hui, c'est moins de 1%. Il s'agit donc de donner des outils aux agriculteurs pour qu'ils soient plus productifs.
Le nouveau tracteur autonome type John Deere utilise la vision par ordinateur, l'intelligence artificielle et le GPS pour labourer un champ et y planter sans s'arrêter. Mais les agriculteurs, petits et grands, seront-ils prêts à faire confiance au tracteur autonome?
Je peux vérifier le niveau de carburant. Je peux consulter l'application pour voir combien de champs il reste. S'il détecte quelque chose d'anormal dans le champ dont je n'ai pas sûr, le tracteur s'arrêterait et m'alerterait. Est-ce le type de tracteur qui peut m'intéresser?
Des caméras permettent à l'agriculteur d'avoir un aperçu de l'ensemble du domaine à tout moment. Les graines sont semées avec précision. De même, la technologie See and Spray du tracteur pulvérise les herbicides exactement là où ils sont nécessaires, ce qui permet d'économiser de l'argent tout en préservant l'environnement, affirme la société. Mais le plus grand avantage potentiel, selon certains agriculteurs, sera le gain de temps. Sarah Raycor-Combroker est une agricultrice de quatrième génération qui cultive des betteraves à sucre, du blé et du soja dans sa petite ferme du Montana.
The big difference between what I currently have with my GPS-driven tractor.
La grande différence entre ce que j'utilise actuellement avec mon tracteur piloté par GPS et un tracteur entièrement autonome, c'est surtout le facteur temps. Je peux exploiter plus de terre et être plus efficace grâce à toutes ces améliorations technologiques.
Les tracteurs autonomes John Deere seront disponibles pour les agriculteurs dans le courant de l'année.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Nanit Talani. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.